Actu SF, les podcasts.
Bienvenue à vous. Donc, vous voyez qu'on a commencé déjà dans la bonne humeur. Alors donc cette table ronde a pour intitulé de la dinomania à dinotopia. Pourquoi les dinosaures hantent-ils l'imaginaire occidental ? Alors pour discuter de ce thème, j'ai à côté de moi Jean-Luc Marcastel, donc auteur originaire du Cantal, qui a commencé à écrire des petites histoires dès l'âge de 10 ans et qui a eu envie de raconter beaucoup de choses et qui d'ailleurs est bien bavard parce qu'il a écrit beaucoup de choses.
Oui.
Qui a commencé avec les histoires du Galou.
Oui, tout à fait.
Et qui ensuite après a élargi l'univers en abordant beaucoup de choses. Et notamment pour le thème qui nous intéresse, on va essentiellement parler de Télucidar. Oui. Et des chroniques de Pulpillac.
Exactement.
Alors, nous avons également autour de cette table Laurie Guillot, qui est universitaire et essayiste, spécialiste des littératures de l'imaginaire et du roman d'aventure, et qui a notamment essentiellement travaillé notamment sur sa thèse de doctorat d'État sur le thème du monde perdu dans la littérature anglo-saxonne, mais qui a ensuite évidemment développé un certain nombre de thématiques un peu plus larges autour de l'imaginaire et qui va donc nous apporter son regard d'universitaire. Donc après avoir travaillé à l'université de Nantes, il travaille maintenant à l'université d'Angers. C'était ce qui était marqué dans la bio. Donc,
bon. Non, mais je suis retraité.
Voilà.
Émérite, ça veut dire retraité.
D'accord. Alors, on va commencer déjà par partir un petit peu des ouvrages de Jean-Luc. Alors, je voulais commencer par Pulpillac.
Oui.
Alors, Pulpillac, une petite ville qui ressemblerait quand même un peu furieusement à Aurillac.
Un tout petit peu.
Voilà. Et dans cette ville, il se passe des choses étranges. Alors déjà, on a une espèce de multinationale dont le nom ressemble furieusement à une multinationale qu'on connaît et qui est dans le domaine agroalimentaire et qui fournit notamment de la nourriture pour le bétail, etc. Qui d'ailleurs la fournit des espèces de pilules qu'on donne aux poules.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces pauvres poules ?
En fait, on veut augmenter la productivité des poules. Donc, en fait, multiplier par deux, si vous voulez, leur productivité. Malheureusement, ces granules vont réactiver chez les poules un gène récessif. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que en ce moment, il y a des paléontologues d'ailleurs qui essayent de recréer des dinosaures, ce qu'on appelle la déévolution, en supprimant donc des gènes justement pour leur redonner une queue, etc. Enfin bon, recréer des dinosaures. Et bien là, c'est ce qui se passe, ces poules se mettent à pondre des œufs un petit peu bizarres et en sortent des poussins pas normaux. Alors au début, il y en a, ils les passent au broyeur pour faire des nuggets, mais il y en a qui réussissent à s'échapper et qui vont dans les bois, se développent et qui commencent un peu à manger tout ce qui se trouve autour. Donc en fait, des poulets raptors. Parce que le titre du premier volume donc, de cette série, c'est « Quand les poules avaient des dents », puisque comme le soulignait un grand paléontologue qui s'appelle Robert T. Baker, on ne devrait pas dire « quand les poules avaient des dents », on devrait dire « quand les poules auront des dents », on devrait dire « quand les poules avaient des dents », parce qu'elles en ont eu.
Effectivement, et donc on constate que la population féline et canine diminue.
Disparaît de manière drastique.
Voilà.
Et les habitants du village sont fort inquiets, et donc nos héros vont se retrouver confrontés à ces créatures... Et en plus de ça, visiblement, Sans Monteau, donc la firme internationale dont il est question, va bientôt lancer la production en masse, généralisée, on va dire, de ces granules miracles, en quelque sorte. Et donc, on risquerait d'avoir partout autour du monde un retour des dinosaures qui risquerait de mettre en péril l'humanité. Voilà, donc c'est assez loufoque, mais très drôle, je me suis beaucoup amusé. Mais par contre, ça part d'un postulat, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ces histoires de gènes récessifs, ça existe. Et à la fin du livre, donc, il y a tout un dossier, justement, sur les dinosaures dans la littérature, dans le cinéma. Et aussi savoir si on pourrait, de nos jours, possiblement, revoir des dinosaures. Je passe en revue les différentes possibilités, entre autres, par exemple, celle de Jurassic Park, etc., en disant oui, c'est possible, oui, non, pourquoi. Voilà.
Et alors, dans Télucidar, là, on est un peu sur l'histoire des Terres Creuses.
L'histoire des Terres Creuses, c'est un hommage à Télucidar de Edgar Rice Burroughs. Qui avait imaginé un monde intérieur. C'était la théorie de la Terre creuse, qui était une théorie très en vogue à la fin du 19e et début du 20e siècle. Il paraît, peut-être tu pourras peut-être me confirmer ou pas, que même Hitler avait lancé une expédition pour trouver le passage nord, enfin tout ça, enfin des légendes possibles. Le fameux passage nord. Et donc en fait, il croyait que la Terre aurait été creuse comme une balle de tennis et que sur la face l'envers de la Terre à l'intérieur, on aurait eu un monde intérieur. Donc c'était assez amusant à utiliser en littérature, parce que du coup on a un monde où l'horizon monte à la place de descendre, et quand on regarde au loin, on verrait l'horizon qui monte, qui s'élève, qui disparaît, par exemple des jungles, de la mer, et puis où le soleil serait le cœur enflammé de la Terre. Hein, donc il n'y aurait pas vraiment de nuit, il y aurait que du jour, et donc dans mon livre, toujours cet hommage à Edgar Rice Burroughs, il y a des dinosaures, enfin en tout cas des descendants de dinosaures, parce qu'on peut imaginer qu'ils auraient évolué, hein, qu'ils ont évolué, ce qu'on fait d'ailleurs pas mal de scientifiques qui sont amusés avec l'idée quelle tête auraient les dinosaures, par exemple, de nos jours. Et moi, dans mon histoire, il y a entre autres des dinosauriens intelligents. Hein, c'était pareil, je crois que c'était toujours Jack Horner qui avait imaginé, à partir d'une certaine espèce, c'était le Troodon, je crois, un hominidé, en quelque sorte, dinosaure. Si ces dinosaures qui paraissaient assez intelligents avaient survécu, est-ce qu'ils auraient pu devenir, acquérir la sapiens Et vous, de nos jours, par exemple, eh bien, on serait des dinosaures assis là, en train de discuter de littérature.
Ça serait bien. Et alors, donc, il y a des humains qui sont également là et qui ont réussi à vivre en paix avec ces dinosaures.
Exactement, qui après, on va dire, un premier contact difficile. Parce qu'on ne sait pas exactement au début dans l'histoire comment ces peuples se sont retrouvés là. Mais vraisemblablement, bah, les dinosauriens sont venus les premiers. Mais comment et pourquoi, on ne sait pas. Et les humains sont venus beaucoup plus tard. Et donc, au début, il y a eu des conflits un petit peu entre les deux. Mais ces conflits ont fini par se régler. Ils ont fini par faire une société, on va dire... harmonieuse, hein, où ils réussissent à vivre en harmonie. Bon, malheureusement, cette harmonie va être perturbée, on va dire, par une société, pareil, multinationale humaine qui a découvert ce monde-là, a découvert surtout des richesses phénoménales, ne l'a dit à personne à la surface et veut exploiter ce monde, hein, on va dire, et ses ressources sans avoir aucun contrôle. Hein, on va dire qu'au moment du temps du 19e siècle dans certains pays d'Afrique, on va dire, et commence à semer la zizanie entre les humains et les dinosauriens en créant, on va dire, en aidant une faction des humains qui dit voilà, nous on est des humanistes, on veut que les humains dirigent et soient au-dessus des autres, soient au-dessus des reptiles, etc. C'est l'ordre naturel des choses. Enfin bon.
Donc là, ces terres creuses, en fait, c'est pas la première fois qu'on en parle.
Oh, je veux bien dire un mot sur les terres creuses.
Eh ben, voilà.
En fin de compte, les premières théories sur la terre creuse datent du XVIIIe siècle. C'est des savants comme Euler, bon, qui font des choses très sérieuses, évidemment, vu que c'est des scientifiques, même si évidemment leurs théories sont fausses. Mais heureusement, il y a des écrivains qui rectifient les scientifiques, et c'est Jules Verne qui en 1864 écrit Le Voyage au centre de la Terre, et c'est le premier auteur à avoir placé des dinosauriens au centre même de la Terre. Le bouquin va être immédiatement pillé par les pays anglo-saxons, et d'une certaine façon, la fiction des dinosauriens commence avec le succès du Voyage au centre de la Terre. Et Edgar Rice Burroughs va prendre la suite, mais entre les deux, il y a quantité d'autres. C'est intéressant d'ailleurs de commencer par les ouvrages de Jean-Luc. En fin de compte, c'est le problème à l'envers, c'est-à-dire comment on a fait pour arriver à Jean-Luc. Et moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est l'inverse, c'est-à-dire de montrer comment l'imaginaire du dinosaure peut aujourd'hui engendrer autant de fiction. De fictions diverses, aussi bien l'image, aussi bien bien sûr le cinéma, aussi bien les romans ou les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Bon, pourquoi on en arrive là et comment ça se fait que les dinosaures connaissent une sorte de... Je vais reprendre le mot, évidemment, de Flammarion, de résurrection. Parce que ce qui est très, très curieux, c'est la science, en fin de compte, qui réveille l'imaginaire du dinosaure. Ça, c'est un point qui me semble absolument fondamental. Sans Owen, Owen est un savant anglais qui, dans les années 1840, donc trois autres, enfin, Owen est le plus important, qui va créer le mot dinosaure. Et ça ce qui est extraordinaire, c'est que lui, le bon scientifique, pour désigner cet animal, va utiliser des termes mythologiques, c'est-à-dire le reptile et puis dino. Dino, c'est la terreur. Mmh. C'est-à-dire que dès le départ, le dinosaure, même répertorié scientifiquement, aura une connotation de terreur. Et ça va être extraordinaire, parce qu'il y a un autre phénomène qui est ce que j'appelle la grande verticalité des sciences nouvelles de la deuxième moitié du 19e siècle. Tu m'arrêtes quand tu veux. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les sciences nouvelles, c'est la paléontologie et surtout, les deux sont aussi importantes, l'archéologie. Et une fois encore, quel terme emploie-t-on ? Arché et paléo, c'est-à-dire sans arrêt des préfixes qui nous ramènent à l'origine. Donc sans le savoir, enfin sans le savoir, oui je pense que c'est sans le savoir, l'imaginaire scientifique produit toutes les conditions d'une sorte de résurrection, de résurrection du monde du dessous. C'est ça que j'appelle la grande verticalité. Et pour la première fois de l'histoire, on se met à creuser des trous partout. Et qu'est-ce qu'on sort de ces trous ? Des ossements absolument gigantesques. Et puis, bien sûr, bon, j'en parlerai pas, pour l'archéologie, on sort des villes entières qui sont quelquefois aussi sophistiquées que les mondes contemporains. Et ce qui entraîne la fameuse citation de Paul Valéry, nous savons désormais, nous autres civilisations, que nous sommes mortels. Mortels, mortels comme les ancêtres, parce que les dinosauriens vont être considérés comme les ancêtres, les grands ancêtres, démesurés, qui nous ramènent au monde des géants, à un monde fantasmé, à un monde totalement fabuleux, mais toujours, bien sûr, attesté scientifiquement. Et c'est ça qui est le plus plaisant dans ce grand retour de l'imaginaire des dinosauriens, c'est que c'est la science qui est à 100% responsable de ces productions qui sont très intéressantes, où il y a un retour, une réappropriation par les écrivains des dinosaures qu'on peut dater du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Voilà. Et alors, ne parlons pas, bien sûr, on en dira un mot, du cinéma. Et puis, Michael Crichton, Michael Crichton, je traduis. Voilà. Et puis, bien sûr, ce qui a occupé ma recherche personnelle pendant trop longtemps, c'est-à-dire le monde perdu de Conan Doyle. Voilà. Quelques mots juste pour refixer le débat. Voilà.
Ben, c'est intéressant de effectivement montrer que la science a vraiment bien un rôle à jouer là-dedans. Et si je repars sur Telucidar, les dinosaures qui sont dans Telucidar, c'est pas ceux qu'on voyait il y a un certain temps comme reptiles. Et eux, ils ont des plumes colorées. Et on se rend compte que finalement, tu t'es appuyé sur les dernières recherches en date.
Exactement.
Qui ont mis en évidence effectivement qu'ils devaient avoir des plumes et des jolies couleurs.
Voilà, alors justement ça rejoint ce que tu disais et c'est assez amusant. Donc les dernières recherches et les dernières découvertes dans le Liaoning par exemple en Chine nous montrent que même des grands théropodes, c'est-à-dire de la famille du tyrannosaure, etc., possédaient vraisemblablement des plumes ou en tout cas des protoplumes, c'est-à-dire des espèces de filaments qui leur permettaient de vivre même dans des conditions assez extrêmes avec de la neige, etc. Mais alors ce qui est assez rigolo, c'est que ce soit le cinéma, d'ailleurs j'ai un de mes amis qui est paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, Jean-Sébastien Steyer, et qui fulminait, qui me disait « mais alors c'est fou, le cinéma, on pensait qu'ils intégreraient justement ces dernières découvertes dans les films qui sortent maintenant, or non, il y a une espèce de refus de cette vision nouvelle donc des dinosaures qui ressemblent finalement plus à des gros poulets qu'à des lézards. Seulement, quelque part, dans l'imaginaire, effectivement, on va dire occidental, le dinosaure, c'est le dragon. C'est la figure du dragon, c'est la figure du reptile, c'est la figure de Drac. Drac, c'est le serpent en grec. Et donc, ça veut dire que c'est Satan, quelque part, c'est le mâle. Le mâle, c'est le reptile. Et pour nous, c'est l'animal à sang froid, c'est ce qui est notre ennemi. Et quelque part, ce qui fait peur dans les dinosaures, les tyrannosaures, c'est que c'est un reptile. Tout à coup, si on l'imagine comme un gros poulet, ben ça marche plus. Donc le cinéma ne veut pas. Parce que visuellement, pour les gens, ça n'a pas le même impact de voir un gros poulet avec des dents qui poursuit des gens que de voir un tyrannosaure avec des écailles. Or, il semblerait bien que... Alors, on n'a pas le tyrannosaure, celui qu'on avait, les squelettes qu'on a trouvés aux États-Unis, on n'a pas la peau. Mais par contre, les derniers qu'on a découverts, et visiblement des cousins, sembleraient bien avoir des plumes ou des protoplumes. Et on sait maintenant, de toute façon, que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. D'ailleurs, ils ont été reclassés dans la catégorie dinosauria, officiellement. Les dinosaures, les oiseaux sont des dinosaures. Vous pouvez dire à votre petit cousin, si vous voulez l'épater, tiens, tu veux que je te montre un dinosaure ? Ah ouais, bah tiens, regarde. En voilà un.
Ouais, dans le cadre universitaire, il y a beaucoup de dinosaures.
mais d'ailleurs,
les plumes.
Mais tu sais, c'est marrant d'ailleurs, ce que tu dis là, parce que ce mot, justement, quand on dit ça, c'est un dinosaure, voilà. Ça veut dire quelque chose forcément qui est vieux, qui est ancien, qui est dépassé et qui doit disparaître. Il y a aussi ça.
Or, le dinosaure ne disparaît pas.
C'est
ça. Il y a une sorte d'éternel retour.
Exactement.
Des dinosauriens, une fois encore, engendrés totalement par le discours scientifique, oui. Légitimés par le discours scientifique, et qui débouchent sur un imaginaire
foisonnant,
que tu l'as très bien montré, qui en fin de compte ne correspond pas du tout aux dernières normes, aux dernières normes paléontologiques.
Non.
Donc il y a, je dirais, bon, si tu fais la liste de tous les dinosauriens scientifiquement aujourd'hui, tu trouves, je ne sais plus combien, 1500, ou, enfin, c'est gigantesque, le nombre de dinosaures qui ont été
Et puis surtout, ça va du tout répertorié. Petit, je veux dire, au très grand. Quoi.
Non, c'est... mais ce qui est très drôle, c'est que par rapport à la fiction, ou par rapport au cinéma, ou par rapport aux œuvres que l'on connaît, ou aux multiples nanars, il y en a eu beaucoup, disons, entre 1950 et le début du siècle, eh bien, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les dinosaures, c'est toujours à peu près les mêmes figures.
Oui.
Ce sont des figures, en fin de compte, qui sont totalement archétypales.
Oui.
Et si on se met d'accord, ça sera très rapide, on pourra se mettre d'accord sur 7 ou 8
c'est
grands
espèce,
dinosaures. Tu viens de
le
citer,
tyrannosaure,
T-rex.
Le brachiosaure pour les...
voilà, bref. C'est ça.
Alors, le brontosaure. Et alors, quand même, Crichton, tu disais, t'en parlais tout à l'heure, a quand même introduit une nouveauté. Il a introduit les raptors. Qui jusqu'à présent, les petits dinosaures comme
tout
ça, il en a fait en plus quelque chose d'assez effrayant parce que prédateur, etc. Avant ça, c'était forcément le gigantisme.
Voilà.
Lui, il a réintroduit, par contre, la vitesse.
C'est
la vitesse,
ce qui est un autre mythe.
Exactement, tout à fait. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on disait, en fait, le dinosaure, ce qu'il y a de merveilleux pour les gamins, moi, je sais, quand j'étais gosse, on croyait aux dragons quand on était gosse. Puis un jour, on nous dit, les dragons, ça n'existe pas. Oh. Mais il y a les dinosaures. Le dinosaure, c'est le dragon, mais qui a la caution de la science.
Bon, j'ai quelques citations, mais enfin, je vais vous en faire grâce. Si on peut faire passer quelques... parce que les bouquins de Flammarion, les bouquins qui montraient d'une certaine façon toute cette actualité scientifique paléontologique, ils étaient dévorés comme des bouquins de Jules Verne. Enfin, je veux dire, c'était pas simplement l'intérêt scientifique qui commandait cette espèce de fascination, c'était aussi tout simplement une sorte de grand voyage, pas forcément un voyage uniquement dans le temps, mais un voyage contemporain. Et ça, c'est très important parce que l'idée qui va être l'idée géniale qui va être reprise surtout par Conan Doyle, mais il y en aura quelques-uns avant, c'est de montrer que les dinosauriens ne sont pas morts, qu'ils peuvent être contemporains. Et là, il y aura un grand thème littéraire, fictionnel, appelons-le comme on veut, qui est le thème du monde perdu, ou de ce qu'on peut appeler le monde préservé. Alors, le monde préservé, évidemment, il ne peut être par définition préservé qu'isolé du reste du monde. Et là, il y a deux versants absolument, on peut continuer, il y a deux versants absolument formidables. Il y a le versant, je dirais, scientifique ou pseudo-scientifique, où on essaye de reconstituer, d'après les planches ou d'après les travaux de Cuvier. Cuvier, c'est tout de même extraordinaire.
C'est
voilà
fascinant.
Un type qui, d'un seul coup, qui se retrouve avec une cinquantaine d'ossements et puis qui les met ensemble pour que ça forme un ensemble cohérent. Il y a des erreurs colossales. Aujourd'hui, ça fait sourire, évidemment, la communauté scientifique, mais c'est très, très difficile. Tu as très bien montré qu'en fin de compte, les erreurs continuent aujourd'hui. On met des cornes sur des dinosauriens qui n'en ont jamais eu.
Tu sais, c'est la fameuse idée du le pouce de l'iguanodon, tu sais.
Absolument. Et donc,
c'était Mantel, ça me dit Mantel.
La première vision que l'on a du monde des dinosaures, c'est le grouillement. On les met tous ensemble, voilà, pour que ça fasse, d'une certaine façon, un effet, l'effet du grouillement. Et c'est très important, les effets. Parce que les effets relèvent de l'imaginaire. Un deuxième effet du dinosaurien, relié peut-être au dragon ou au monstre en général mythique, c'est, dirait Gilbert Durand, l'avalage. Par définition, le monstre avale. Bon, il ingurgite, il vous bouffe. Donc là, on est sur deux registres. Le registre mythique, initiatique pratiquement, comme on se retrouve dans le ventre de la baleine pour devenir autre. Ou alors, évidemment, le registre qui va être exploité d'une manière éhontée par Spielberg et les autres, c'est-à-dire on est avalé vivant.
La dévoration.
La dévoration. Et évidemment, le T-Rex va devenir... Parce que le vampire. c'est la gueule. C'est la gueule.
La gueule.
Voilà. La goule. C'est ça.
C'est le Léviathan. C'est le...
Si on peut continuer. Merci. Voilà. Les combats. Alors, évidemment, les dinosaures ne peuvent. Ils sont tellement méchants. Il y a tellement de concurrence qu'ils ne peuvent
dessus.
Que se combattre. Donc, les premières gravures qui montrent des dinosaures montrent des figures de combat.
Le plus étonnant, là, sur ce que tu as là, c'est que justement, qui est assez ancien, là, celui qui est en bas à gauche, est un des plus exacts parce qu'on le représente justement plus comme des oiseaux en train de se battre là. Ouais. Tu vois, alors que c'est quand même assez vieux. Alors qu'après, on les représente comme des choses vraiment, tu sais, énormes, pathodes. Justement, je voulais tout à l'heure, quand il y en a une qui est passée, on les voyait dans l'eau. Oui. Il y a eu cette idée pendant très longtemps que les diplodocus, les apatosaures, enfin bon, etc., tous les bronchiosaures, brachiosaures, etc., ne pouvaient vivre que dans l'eau, car ils étaient tellement gros qu'ils ne pouvaient pas supporter leur propre poids.
Absolument.
Or, on sait maintenant que c'était totalement faux, qu'ils se déplaçaient au contraire sur Terre dans des grands troupeaux. Donc, c'est assez amusant de voir justement les différences, alors qu'à l'époque, on les représentait tout le temps dans des marécages. Donc, c'est assez étonnant de voir ça. Voilà.
C'est-à-dire qu'il faudra des décennies pour qu'on puisse envisager des dinosaures inoffensifs.
Oui.
Par définition, le dinosaure est une figure de l'agressivité.
C'est le reptile.
Et évidemment, elle va être dirigée contre les autres. Et ça, c'est très intéressant de voir que le grouillement ensuite débouche sur, en fin de compte, des combats. Et ces combats vont rester très longtemps dans l'œil du spectateur grâce à des films comme King Kong, parce qu'il faut parler tout de même de King Kong, chef-d'œuvre absolu, qui est un grand moment de l'imaginaire occidental. C'est dans les années 1930, d'une certaine façon, qu'il y a ce passage à l'image animée. Et évidemment, derrière, il y a tous les gens que vous connaissez. Et ça, c'est très important, ce moment, avec l'image par l'image de Willis O'Brien, qui va être le grand pourvoyeur de fantasmes, d'ailleurs exploité par Conan Doyle. Conan Doyle, il possède les rushs du film de 1925. En 1925, il y a une première adaptation du Monde perdu. Et on voit pour la première fois dans l'histoire du cinéma un brontosaure qui sème l'épouvante dans une ville. Et il va montrer, sans prévenir personne, une société de journalistes, comme si c'était du vrai. Et d'un seul coup, les gens, bon, évidemment, quand on voit ça aujourd'hui, on rigole. Mais à l'époque, voir d'un seul coup un dinosaure dans les rues d'une ville, c'est Londres, et qui casse le London Bridge, etc. Mais les gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Où avez-vous eu ça? Est-ce que ça existe vraiment? Ça, c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant.
La crédibilité, petit à petit, passe par l'image. Oui, ça, c'est très important. Si on peut continuer. Donc, alors, on accumule. Par définition, on revient dans le grouillement. Le dinosaure n'est d'une certaine façon, imaginé que dans un contexte de grouillement. Voilà, ça grouille. Et alors là encore, on est dans le pur imaginaire. Mm-hmm. Pourquoi les dinosaures grouilleraient-ils? Eh bien, quand vous voyez les films que vous connaissez de Spielberg, on est dans le grouillement d'un seul coup. Alors on voit un T-Rex isolé, et puis le moment après, on en a eu un déferlement de brontosaures, le plus extraordinaire,
dans King Kong,
c'est n'importe quoi.
Oui, surtout sur une île où en fait tu dis quand même, ne pas y avoir tant à bouffer que ça. On a, je sais pas, tu dis mais où est-ce qu'ils mangent tout cela, qui déferle dans son défilé.
C'est la scène la plus surréaliste du film.
Tout à fait. Alors c'est jubilatoire, mais par contre c'est totalement improbable.
Complètement. Ce qui prouve bien une fois encore que on veut faire du crédible et en fin de compte on ne débouche que sur le délire.
Tout à fait.
Oui, merci. Voilà, alors ça c'est un moment très important, même si le thème du monde perdu commence à, disons, percer au début du siècle, je parle du 20e, 1912, c'est tout de même le chef-d'œuvre de Conan. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre, peut-être plus important que les aventures de Sherlock Holmes. Et bouquin est très bien écrit, très bien conçu, est à la fois dirigé vers les jeunes gens et le public adulte. Il va avoir un succès planétaire. Et il faut tout de même être gonflé comme Crichton pour appeler son bouquin
«
Le monde perdu ». Mmh. Je ne comprends même pas comment les héritiers de Conan Doyle ont accepté une telle imposture. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et Spielberg aurait dû réagir lui aussi. Mmh. Bon. Et pourquoi Spielberg n'a jamais adapté littéralement Le monde perdu?
Et c'est dommage parce qu'en plus, il y a le professeur le professeur Challenger qui est quand même extraordinaire. Exactement. D'une drôlerie à l'époque absolue.
C'était le héros favori de Conan Doyle.
C'est jubilatoire. Là aussi, il est très 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 drôle.
Donc là, à partir du monde perdu, il y a bien sûr la fiction qui est présentée comme une réalité, c'est-à-dire ça paraît dans le Strand Magazine et c'est présenté comme une exploration qui a vraiment eu lieu avec un lieu très précis, le mont Roraima en Afrique du, en Amérique du Sud, etc. Le contexte de la disparition de Percy Fawcett, vous connaissez sans doute cet explorateur qui a disparu en Amazonie, et il y a eu ce film superbe que vous avez vu de Gray, c'est ça ? Non, c'est le bouquin de Gray. Et, bon, bref, le titre m'échappe. Mais Fawcett, c'est lui qui va donner l'idée à Conan Doyle de son expérience. Parce qu'il trouve un plateau.
Tepuy, ils appellent ça. Enfin,
c'est ça, le Tepuy, qui est assez impressionnant. Ouais. Je sais pas, si... Donc, voilà. Alors, tout de suite, il y a le passage et l'image, soit par des procédés, évidemment, du genre ciné, machin. Et puis, allez-y. Voilà, bon, ben, passons rapidement sur toutes les éditions qu'il y a eu. Voilà. Voilà comment ça a été présenté. Bon, enfin, je ne sais pas si j'ai l'illustration originelle, c'est-à-dire, en fin de compte, une sorte de pont où on passe d'un monde à l'autre. C'est-à-dire, vous passez le pont et vous vous retrouvez des milliers d'années, ou si, même des millions d'années en arrière. Oui, merci. Voilà. Et là, vous avez des illustrations qui vont aller dans le sens de la terreur. Et évidemment, un des grands reptiles de la terreur, c'est le ptérodactyle. Or, le ptérodactyle, on le sait aujourd'hui, était gros comme une oie à peu près. Donc, c'est pas du tout un ptérodactyle, mais un pteranodon.
Pteranodon, ouais. Le Quetzalcoatlus, après, autrement, qui sont très grands.
Alors, ça, c'est le, le Quetzalcoatlus. Ah ouais.
Bah, c'est énorme.
Mais évidemment, il y a des pages et des illustrations absolument extraordinaires. Quand les attaques de ptérodactyles, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Oui. Voilà donc les héros du monde perdu. Voilà aussi une présentation qui montre au milieu le professeur Challenger, qui est un curieux héros totalement excentrique.
Pithécanthropesque.
de Conan Doyle, et, qui avait un rapport étranger. On l'a trouvé costumé en professeur Challenger quelquefois.
Ah, mais ça, ça.
Enfin bon, voilà. Voilà, merci. Voilà aussi, c'est toujours... Ouais. Ça, ça va être exploité par le cinéma. Exactement les mêmes illustrations. C'est intéressant de voir comment on passe de la fiction à l'image et au cinéma, pour en venir à Jean-Luc. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui domine, c'est la verticalité, le vertige. Il faut grimper pour accéder à un monde très ancien, quitte à redescendre, parce qu'on redescend souvent dans des lieux de terreur qui sont marqués par la profondeur, parce que profondeur spatiale et profondeur temporelle, c'est exactement pareil, hein, surtout pour ces romanciers du début du siècle. Voilà. Voilà. Et donc, voilà les premières images. 1925, Harry Hoyt, un Américain, voilà, qui va, avec Willis O'Brien déjà, qui va rôder sa technique. Alors évidemment, tout ça paraît d'une naïveté incroyable aujourd'hui.
Oui, mais ça garde
mais
un charme.
C'était absolument
pour l'époque, c'était
mais révolutionnaire. Mais révolutionnaire. Et ce film va avoir un succès absolument fou. Alors, intéressant par rapport aux dinosaures, là, vous venez de voir le brontosaure. Mm-hmm. Voilà, bon, sans doute une sorte de tyrannosaure loupé.
Allosaure, on ne sait pas.
Ou allosaure, peut-être.
Théropode, en tout cas, mais bon.
D'ailleurs, il n'est pas nommé, d'ailleurs, dans le monde perdu.
Voilà,
il
n'est
pas nommé. Il n'a pas pris ce risque.
Non, il n'a pas précisé. Peut-être qu'il n'avait pas forcément les connaissances scientifiques, alors.
Bon, il était tout de même conseillé par Lancaster, qui était le conservateur du British Museum. Enfin, bon,
comme ils appelaient mégalosaure à l'époque, à un moment donné, il y avait un terme générique.
Absolument. C'est le premier mot mégalosaure qui est attendu, juste avant dinosaure.
C'est qui, c'est Julian Mantel?
Vous voyez qu'on est déjà dans l'énormité, le dinosaure, c'est déjà ce qui nous dépasse, ce qui nous écrase. Puis mégalo, c'est assez intéressant. Bon. Et donc, ce qui est extraordinaire aussi, c'est pour la première fois, on montre des hommes face à des dinosaures. Personne n'aurait, évidemment, il y a une fois encore, c'est Jules Verne, bien sûr, mais quand vous voyez la fameuse scène à la fin du voyage au centre de la Terre, lorsque les trois hommes sont face... Ah, d'ailleurs, c'est Il y a deux scènes. Il y a les dinosaures, les plésiosaures d'ailleurs, de la mer intérieure, hein, mais ils n'essayent même pas d'envisager une seconde, une sorte d'affrontement. Ils sont totalement dépassés. Et la vision finale, c'est en fin de compte un troupeau de mastodontes. Et je crois que le narrateur dit « ça ne peut pas être vrai ». Donc ce salaud, j'allais dire, de Jules Verne, que j'adore en tant que Nantais, évidemment, eh bien, il réussit à nous passer le doute. Est-ce que vraiment cette scène-là existe? Est-ce que vraiment il y a une faune quaternaire, par exemple, au centre de la Terre? Ah, ça, c'est formidable. Voilà, merci. Voilà, donc, le brontosaure. Et c'est ce même brontosaure qui va être lâché dans les rues de Londres et qui est d'une certaine façon le précurseur des grosses bêtes que vous connaissez qui déferlent sur l'écran et qui cassent tout depuis maintenant 50-60 ans. Voilà. Voilà. Et puis donc des illustrations qui montrent toujours les gueules ouvertes, la peur de l'avalage, etc. Bon. Oui. Voilà. Bon, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais enfin bon. Toujours le monde perdu. Alors, vous avez plusieurs adaptations, mais qui sont pour moi assez mauvaises. La pire, c'est Irwin Allen en 1960. Bon, enfin bon. Le grand film reste à faire du monde perdu de Conan Doyle. Et je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi, en fin de compte, on adapte plus facilement Crichton que Conan Doyle. Je veux dire, il y a tous les éléments pour faire un chef-d'œuvre absolu. Voilà, voilà quelques illustrations qui tournent toujours autour des mêmes thèmes. Voilà, alors ça, c'est la fin du monde perdu. C'est Challenger a ramené la preuve absolue de la réalité de son monde, ce qui est un ptérodactyle. Et ce ptérodactyle, il ouvre la cage et ce crétin, il s'envole. C'est-à-dire la preuve même de la réalité du monde perdu, s'envole par la fenêtre. Alors ça va être, évidemment, les réalisateurs vont dire, oh, un ptérodactyle qui s'envole à la fin, c'est pas terrible. On va mettre un brontosaure. Alors là, évidemment, le brontosaure, lui, il casse tout. Oui, mais ça change tout.
Ben, c'est différent, oui, c'est votre
chose. Ah oui, voilà. Donc c'est la civilisation qui se trouve menacée par les dinosauriens. Et ça, c'est aussi un moment important par rapport à notre thème.
Il y a quelque chose d'assez important, moi, sur les dinosaures. Enfin, une idée très, très fausse qui circule quand même chez des gens, c'est qu'en fait, on a cette idée très... et ça rejoint d'ailleurs toute l'époque à laquelle a été écrit le livre. Cette idée très darwinienne de dire que forcément, dans le cycle de la vie, bon, d'abord, il y a les plantes, ça, c'est tout en bas. Les plantes sont mangées par les herbivores. Et puis après ça, parmi les créatures qui sont apparues, il y a d'abord eu les reptiles. Et les reptiles, bah, c'est des grosses bêtes, tout ça, un petit peu patates. C'est normal qu'elles aient disparu. C'est normal que les dinosaures aient disparu parce qu'ils n'étaient pas adaptés. Et nous, mammifères, qui sommes le sommet de la création, et en particulier, comme disait Robert T. Baker, qui était un des grands paléontologues donc du XXe siècle, enfin, il existe encore, et qui a prouvé que les dinosaures, il avait un livre qu'il avait écrit qui s'appelait « Le pterodactyle rose et autres hérésies », où en fait, il défend la théorie que les dinosaures, en tout cas une grande part, étaient non pas à sang froid, comme on le disait, mais à sang chaud. Hein, parce que c'est vrai que la grande différence entre les reptiles et les mammifères, c'est que les reptiles ont un cœur à deux ventricules, ils sont ectothermes, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de la température extérieure pour fonctionner. Dès qu'il fait trop froid, ils tombent en léthargie. Alors que nous, mammifères, êtres supérieurs, hein, bien sûr, on a un cœur à quatre ventricules, nous, on produit notre propre chaleur et on n'est pas limité. Et donc, évidemment, le summum de la création, c'est un anglo-saxon protestant du 19e siècle. Et donc, c'est normal, et même encore, on considère, les gens disent, mais quand on dit voilà, le terme dinosaure, c'est pour employer quelque chose qui a été dépassé, hein, quelque part, et c'est normal que ça disparaisse. Or, c'est totalement faux. On sait que les dinosaures, il y en avait effectivement à sang chaud, on sait qu'ils ressemblaient plus à des oiseaux qu'à autre chose, et que s'ils ont disparu, c'est qu'ils n'ont vraiment pas eu de bol, hein, c'est qu'ils ont une météorite qui est quand même tombée dessus, qui, en plus, là où c'est tombé, je crois qu'il y avait des poches d'acide dessous, enfin bon, ça a été une horreur, ça a projeté de l'acide dans l'atmosphère. Et donc ceci, si on accepte le fait que les dinosaures étaient parfaitement adaptés à leur univers, ils ont quand même régné sur Terre plus de 240 millions d'années, c'est pas rien, hein, on ne peut pas encore se targuer de ça, nous, hein. Ça veut dire que nous aussi, quelque part, on peut disparaître du jour au lendemain, pas de bol, parce qu'une comète nous tombe dessus. Et ça, on ne veut pas l'accepter, on veut estimer qu'on est resté là parce qu'on leur était supérieur. Hein? Or, ce n'est pas le cas. La preuve, ils ont encore survécu.
Bah dans les fictions récentes, je ne sais pas justement s'il n'y a pas quelque chose qui tourne autour de ça, puisqu'on parlait de mondes perdus. Mais quand on regarde notamment Jurassic Park, on est dans des mondes recréés. C'est-à-dire que la science a permis de récupérer du matériel génétique et de recréer les mondes, avec peut-être nous dans l'idée derrière qu'on peut aussi se recréer nous Et qu'on peut ne pas disparaître.
Mais en plus de ça, tout à l'heure tu en parlais, tu disais pourquoi ils adaptent Crichton et le, Jurassic Park. C'est alors Jurassic Park, ça paraît comme ça quand on parle, quand l'idée, on dit l'idée, ah oui, en fait, on prend de l'ADN de dinosaures dans les gens, ça leur paraît presque possible. Or, c'est totalement faux, hein, ça marche pas. Hein, on peut pas récupérer d'ADN de dinosaures dans les moustiques, il est trop abîmé. Hein, la vie de l'ADN n'est pas assez longue pour durer jusque là. Donc, mais par contre, les gens, ça paraît presque plausible. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils partent de ce postulat-là. Et effectivement, comme tu dis, il y a peut-être l'idée de se dire qu'on peut se répliquer nous-mêmes et subsister à notre propre destruction.
Et puis recréer, parce que c'est aussi de la création 3D, puisque finalement, quand on regarde l'image qu'on regarde, elle n'existe pas, puisqu'elle est complètement générée par image de synthèse. Hein, ils travaillent sur des écrans bleus, enfin, ou des écrans verts, avec des gens qui ont des capteurs sur eux, et après, on réintroduit tout de façon synthétique.
Par contre, je reconnais cette justice à Spielberg, tu en parlais tout à l'heure. Moi, je sais que. Alors, l'émotion que j'avais eue quand j'étais gosse en voyant The King Kong de Willis O'Brien, puis après ça, les films de Ray Harryhausen, bien sûr, évidemment, c'est fabuleux. Et par contre, je l'ai retrouvé la première fois quand le premier Jurassic Park est sorti et que pour la première fois, on nous a montré ces dinosaures en images de synthèse qui paraissaient plus vrais que nature, où là, moi, j'en avais presque la larme à l'œil, j'étais là devant. Mince, ils l'ont fait, quoi. Ils nous ont mis des dinosaures, on croirait. De nouveau, je suis comme un gosse quand je regardais le King Kong.
Je crois que c'est exactement l'émotion. Je crois qu'il faut voir ces films-là parce qu'ils nous ramènent à l'enfance. Oui. L'enfance individuelle, l'enfance collective et l'enfance du monde. Et Bachelard a écrit de très belles choses là-dessus. Tout nous ramène aux origines, tout nous ramène à cette enfance que nous avons perdue. Oui. C'est ça aussi le monde perdu de l'enfance. Oui. Et alors pour revenir sur un point, bon, je suis tout de même américaniste, donc je m'intéresse beaucoup à l'imaginaire américain. Il faut tout de même voir quelque chose d'intéressant chez Crichton et chez Spielberg, c'est tout de même, je dirais, cette alliance qui est très, très états-unienne, je dirais, entre l'archaïque et la technologie. Mmh. C'est-à-dire qu'on a les deux. C'est-à-dire, grâce à la technologie, on va pouvoir recréer, en effet, les conditions d'une sorte de grand parc. L'idée du parc, d'ailleurs, c'est anglais, c'est 1854, dans le sud de Londres, le premier parc. Alors, évidemment, ce n'est pas des dinosaures réels, ce sont des gigantesques statues de dinosaures. C'est assez intéressant, d'ailleurs. 1854 ou 56, déjà qu'on ait envie de les recréer grandeur nature pour montrer que, vraiment, alors, il faut lever la tête, dirait Godard, hein, à la différence de la télé. Bon, on est presque dans un rapport religieux. Ouais. Alors, pour en revenir donc à le problème des parcs, et les prochains vont sortir avec Jurassic World, bref, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire la technologie, c'est formidable, mais ça ne marche pas. Ça finit toujours par casser. Et donc, le monde caché devient le monde cassé. Et ça, c'est très, très intéressant du point de vue, là encore, de l'imaginaire américain, de montrer à la fois l'invincibilité du modèle américain apparente, et derrière, en fin de compte, ce ne sont que des fissures. Et quand je dis des fissures, c'est ces fissures qui apparaissent sur les vitres et par lesquelles enfin, celui dont tu as parlé.
Le Vélociraptor va rentrer.
Enfin, va pouvoir pénétrer dans le monde extérieur. Une fois encore, derrière la vitrine, on a, d'une certaine façon, la grande menace sur la civilisation. Bon, ça, c'est très intéressant. Mais hormis ça, bon, j'en sais rien. Le débat est ouvert.
Alors, il y a aussi, finalement, une nouvelle tendance sur laquelle je voulais aussi aborder. Le dinosaure, il se glisse partout, dans tous les interstices, finalement, de la littérature et de l'imaginaire, et jusqu'à la littérature sentimentale, puisqu'on trouve, depuis 2013, des choses qui, finalement, il y a une créativité extraordinaire là-dessus. Au départ, ça avait commencé comme du sentimental, et ensuite, c'est allé sur du sentimental bien plus croustillant.
Oui, c'est ça.
Ils appellent ça « dinosaur erotica » aux États-Unis, et nous, on l'a traduit par « dinoporn ».
Ouais.
Mais au départ, ça avait commencé comme du erotica, c'est-à-dire des histoires. D'ailleurs, dans la première histoire, il y a une histoire qui s'intitulait « Taken by the T-Rex ». Voilà.
Alors, on n'en a pas ici, hein, mais par contre, si vous voulez vraiment rigoler, vous tapez « dinoporn » sur Wikipédia.
Ouais.
Et vous allez voir des choses vraiment surprenantes à ne pas mettre devant tous les yeux.
Et souvent, c'est un dinosaure.
On vous en montrera pas là.
Qui parle, qui est intelligent. Souvent, il a un prénom.
J'en ai quelques-uns. Non, non, non.
Il a un prénom d'homme, il peut s'appeler Brian, il peut, voilà. Alors, il débarque...
Oh, ça fait un beau titre, c'est un dinosaure nommé Brian.
Brian is in the kitchen, c'est le poulet. Et donc, ce dinosaure débarque dans un lycée ou il débarque dans une entreprise. Il a de l'argent, du pouvoir et évidemment, il fait fantasmer les jeunes filles ou les jeunes garçons ou autres. Et donc, on a comme ça des histoires. Alors, évidemment, quand on arrive jusqu'aux accouplements, on a des trucs très, très improbables. Mais alors, apparemment, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de fanfictions qui sont écrites là-dessus. Apparemment, c'est le thème du dinosaure.
C'est des romans
vraiment,
très courts, hein, je crois.
Oui,
on m'a dit
quand même ça. Il y a souvent 3-4 chapitres. De toute façon, c'est pas... Et alors on trouve de tout, il y a des choses avec des T-Rex, il y a des choses avec des... voilà, avec même... Et il y a même maintenant, ils font ça aussi avec des dragons, forcément. Donc voilà, le dinosaure, il se niche vraiment...
De toute façon, le serpent, enfin en soi-même, la figure du serpent, c'est quelque chose de très sensuel quand même. Quand
absolument.
On voit l'usine, etc. Enfin bon, c'est quelque chose qui a un
et
potentiel, enfin, où, dedans, érotique assez important. Donc.
Et c'est là où on retrouve finalement l'image du démon, l'image du mal, Satan, etc., qui ressort aussi dans ce, finalement, en toile de fond derrière ce genre de littérature.
Mais c'est le reptile hein, dans la Bible, hein, c'est le serpent. De toute façon, le dinosaure est assimilé au dragon et au serpent. Hein.
Et je pense à Gustave Doré, la galerie des monstres de Gustave Doré, qui est assez extraordinaire, le Léviathan, les monstres de la Bible, etc. Ça a été une grande... inspiration pour Willis O'Brien, pour le King Kong. Parce que, bon, voilà, j'ai travaillé un peu, j'ai commis un bouquin sur King Kong, donc voilà, j'ai étudié ça. Mais Gustave Doré a été beaucoup plus intéressé le public anglo-saxon que le public français. Oui. Et ça, c'est lamentable. On a laissé passer une occasion extraordinaire d'étudier cet imaginaire doréen qui est absolument prodigieux et qui est sans doute à l'origine des grands films américain. Bon, enfin bon, ça c'est une autre histoire.
Mais c'est assez amusant de voir cette espèce d'atavisme qu'on a tous, quelque part, la crainte du reptile. Mm-hmm. Hein, cette fascination en même temps qu'exerce et la crainte du reptile. Alors, je ne sais même pas plus quel auteur disait, voilà, c'est comme si au fin fond de nos cellules, on avait le petit rongeur qui se faisait bouffer par le gros dinosaure qui est encore là et qui a cette peur voilà, de la bête à écailles, de la bête qui est froide, qui ne bouge pas, qui vous observe et qui est...
Voilà. C'est un imaginaire, bien sûr, du mal, mais du point de vue des études de l'imaginaire, je reprends Durand, c'est l'imaginaire nocturne. Hein, voilà, c'est l'imaginaire des bas-fonds, des soubassements, etc. Bon, alors là, c'est gigantesque, évidemment. Alors, aussi un point dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'arrête pas de parler de dinosaures, mais on emploie les mots. Il suffit de dire dinosaure, brontosaure, enfin, tous ces termes, il y en a des plus compliqués. C'est un peu comme pour Lovecraft. Lovecraft, bon, tout le monde connaît Lovecraft, mais son panthéon, Nyarlathotep, hein, il suffit de dire...
On en a plein la bouche.
Non, mais eh ben, c'est pareil. Et quand j'entends des enfants, parce que j'ai bref, quand j'entends des enfants prononcer les noms des dinosauriens, eh bien, j'ai l'impression d'entendre les gens qui étaient nostalgiques de la messe en latin.
C'est ça. Le pachycéphalosaurus, c'est génial. Quand un gamin de 5 ans qui vous sort
pachycéphalosaurus. C'est-à-dire qu'il y a un côté incantatoire, du dinosaure. Et c'est pareil pour
surtout qu'ils connaissent des mots que les adultes n'arrivent pas à maîtriser.
Mais absolument.
Et est-ce que c'est pas finalement une créature qui nous est très très étrangère et qu'on peut finalement rapprocher à la figure de l'extraterrestre, de l'alien dans la SF, quelque chose qui est monstrueux, qui va essayer de qui nous menace, qui nous fait peur, qu'on n'arrive pas à vaincre, qui est différent, c'est effectivement l'altérité.
C'est ça. Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'il va tout de même plus loin. L'alien de Ridley Scott va plus loin que le dinosaure, parce que l'alien, c'est presque une figure hybride du diable, diable et aussi d'une sorte de dinosaure revu par la technologie.
Oui, revu par la technologie, puis ce côté incube en plus qui pousse dans le corps humain.
Ah bah voilà,
voilà. Donc il y a ça. Aussi,
derrière, il y a la
menace. Là.
Ça, c'est, on retrouve ce grand thème de la menace qui est encore plus épouvantable chez Alien, vu qu'en effet, ça se niche. Voilà. Non seulement dans la capsule, mais dans le ventre.
Dans le corps
même.
Humain. Puis en plus, il y a un côté, mais ça, c'est Giger, qui a un côté sexuel dans la chose.
Bien sûr.
Voilà, dans le monstre, même dans la tête du monstre, enfin tout.
Bien sûr.
Quand on pense au film Alien contre Predator, je lui trouve un côté un peu dinosaure, finalement un peu reptilien.
Ah, oui.
plus...
extraterrestre.
Il est extraterrestre, mais... et finalement, l'alien contre le prédateur, c'est aussi un combat entre deux espèces.
Mais c'est vrai que tu parles du prédateur. Alors c'est vrai que, par exemple, pour avoir vu des fois quand on regarde, si vous avez l'occasion d'aller dans des parcs à crocodiles, par exemple, ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir, par exemple, un crocodile, ça ne bouge pas comme un morceau de bois. Vous avez presque l'impression, des fois, vous pouvez passer à côté, vous ne voyez même pas bouger, d'un seul coup, ça se met à démarrer. Oui. On a l'impression d'avoir un morceau de bois qui se met à courir, mais à une vitesse.
Ouais, la vitesse.
Et la vitesse de la bête, tout à fait, puis qui passe comme ça, tout à coup, de quelque chose qui paraît presque inanimé. Voilà. Et puis, c'est qu'une gueule, après, quand ça s'ouvre. C'est vraiment. C'est assez effrayant. C'est vrai que de ce passage comme ça, de quelque chose qui paraît mort, où on ne fait même pas attention, on dit un bout de bois.
D'ailleurs, le crocodile est certainement, l'animal le plus proche. Bon, je ne parle pas des oiseaux, évidemment,
non, bien sûr.
Mais l'oiseau et le crocodile sont certainement aujourd'hui les créatures, on parle des créatures, les créatures les plus crédibles du point de vue scientifique, des descendants
des dinosaures. Enfin, même les dinosaures, les crocodiles seraient même des ancêtres des dinosaures, les archosauriens dont sont descendus les dinosaures, et des oiseaux, puisque les oiseaux sont apparentés effectivement aux crocodiles.
Est-ce qu'on peut continuer, parce que j'aimerais tout de même parler d'un type qui a... S'il vous plaît. Encore. Alors vous pouvez faire défiler.
Oui, parce que quand on parlait des varans de Komodo, les gens nous disent que ce sont les derniers descendants des dinosaures. Pas du tout. C'est des lézards gigantesques, c'est tout. C'est une autre branche qui n'a rien à voir.
Donc vous voyez le parc de 1856, malheureusement, c'est qui a brûlé. C'était le premier parc avec des dinosaures représentés grandeur nature. Et les scientifiques étaient tellement contents qu'ils bouffaient parmi les statues des dinosaures.
Ça devait être génial, ça. Tous ces gens en queue de pie dans les...
Voilà. Ah, vous voyez justement quelques... Juste avant. Voilà. Vous voyez ce qu'on a reproduit à l'époque. C'était assez étonnant. Voilà. Et ça, évidemment, c'est un peu comme on emmène des enfants dans un muséum d'histoire naturelle. Fascinés par la grandeur... et quelque chose qui nous dépasse dans tous les sens du terme. Oui, merci. Voilà le voyage au centre. Bon, passons. Voilà, bon, on va passer sur d'autres dinosauriens. Vous voyez, alors ça, c'est intéressant. On est déjà chez King Kong. On est au début du siècle et déjà, on confronte le dinosaure avec le monde contemporain pour montrer qu'il y a tout de même une menace. Et cette menace, elle n'arrivera que plus tard, en 1933, avec King Kong. Voilà, encore. Voilà, bon. Et voilà King Kong, évidemment. Bon, tout le monde a vu cette version extraordinaire. Voilà. Voilà. Et là, on va passer quelque chose de très important. Je suis sûr que tu en as parlé dans ton bouquin. C'est la cryptozoologie. Allez-y. Voilà. Alors, de plus en plus, il y aura dans les revues scientifiques du début du siècle des reportages sur les serpents de mer, sur la possibilité que des dinosauriens soient encore vivants au moment donc, où on écrit. Et ça, évidemment, ça semblait un moment totalement incroyable jusqu'à ce que... Allez-y. Voilà, ce genre de reportage, le serpent de mer existe-t-il en fin de compte? voilà. Mais avec des témoignages de gens qui ont cru voir des dinosaures. Hein. Et Conan Doyle lui-même a cru voir un plésiosaure dans la mer Égée en voyageant. Mais bon, pourquoi pas? Allez-y, encore. Voilà, et puis... Là, on va moins rigoler en 39 quand on va trouver tout de même un sélacanthe dans les Comores. Ben, le sélacanthe, c'est tout de même le Dévonien. Je crois que c'est 260 millions d'années. Voilà. Et là, on rigole plus du tout. Il est possible, en effet, scientifiquement, d'être confronté à une créature très, très ancienne. Et là, mon ami, mon vieil ami décédé malheureusement, Bernard Heuvelmans, va fonder... Sa science, parce que c'est un scientifique, même s'il a connu beaucoup de critiques qui vont lui faire beaucoup de mal, il va être un petit peu victime de la vindicte, on va rester sur Heuvelmans, de la communauté scientifique qui ne peut pas accepter son théorème de base, cryptozoologie, cryptos, caché, c'est-à-dire la science des animaux cachés. Eh bien oui, il est possible, et... on va arrêter là. Mais j'aimerais juste conclure sur ce point. Quand j'ai entendu Evelmans à la radio, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, dire mais oui, il est possible qu'en Afrique, il y ait encore des dinosaures. C'était pour moi la concrétisation du grand rêve, en fin de compte.
Il y a la légende du Mokele Mbembe.
Et le Mokele Mbembe, bien sûr, etc.
Ça. Et quand même, on a quand même trouvé des calmars géants. On sait maintenant que ça existe, oui, qui était absolument du domaine de la légende.
Absolument. Hein. Voilà. Voilà.
Très bien. Alors pour finir, peut-être en guise de conclusion, peut-être que ces dinosaures, c'est aussi un reste dans notre inconscient collectif d'une époque où là maintenant on est en haut de la chaîne alimentaire, mais pendant longtemps on ne l'était pas. C'est-à-dire que effectivement les hominidés étaient des proies. À une époque où on avait des mammouths qui étaient très grands, où on avait des aurochs, on avait des animaux extrêmement menaçants. Et peut-être que le dinosaure, c'est aussi un reste de cette mémoire ancienne de l'époque où on était des proies. Voilà. Donc, merci beaucoup pour
juste
ce débat.
Juste avant de partir, oui. Au fait, le mot dinosaure, quand on l'emploie souvent à tort et à travers, les dinosaures, les ptérodactyles ne sont pas des dinosaures et les reptiles marins ne sont pas des dinosaures non plus.
Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos intervenants. Vous pouvez les retrouver au moins Jean-Luc à la bulle du livre en dédicace qui sera ravi de poursuivre la conversation avec vous. Et à une prochaine table ronde.